Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cet épisode a été enregistré sur une place de Lons-le-Saunier pour les journées du patrimoine et du matrimoine. On a été invité par Mathilde Villain et l'association La Grappe à enregistrer les mamies lédoniennes. Vous verrez, parfois on entend des enfants qui rigolent, le vent qui se lève et des voix autour. J'étais simplement dans une caravane avec mon micro et les mamies. Bonne écoute!
Je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leurs devoirs.
Ressemblez à mes parents? Ah non, pas du tout.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes.
Moulinex, libère la femme, libère la femme, libère la femme.
Vous aviez 20 ans.
Bah, qui on va fréquenter? Les grands-mères?
Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement, de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Marion et Héloïse, et aujourd'hui, nous allons chez Violette.
Je fais beaucoup le clown, mais j'ai pas le goût du végétarien, en fait, parce que je crois que ça s'est fait dans ma vie, malgré moi. Donc, une question d'aura, tu vois, où il se passe des choses. Même d'être là, si tu veux. Mon amoureux, ce matin, il m'a dit, bah, je te l'ai pas envoyé, mais il y a eu deux articles, je crois, ah oui. Une proposition. C'est là où j'ai dit, mais attends, Mathilde, je ne suis pas très vieille.
Oui. Violette, voici Violette. C'était ma première interview ce jour-là, à Lons-le-Saunier. J'ai mis 6 mois à digérer cette rencontre et vous permettre de l'écouter. Parfois, les témoignages sont si forts qu'il me faut un temps pour réécouter. Je préfère vivre la rencontre dans mon esprit pendant un moment, puis ensuite m'y remettre. Mais pour tout vous dire, je commençais à avoir hâte de m'y mettre. J'avais hâte d'entendre le rire de Violette, sa vivacité et la lumière qu'elle dégage. Il faut vous l'imaginer, rieuse, avec des fleurs dans les cheveux. Certes, elle est plus jeune que les autres mamies que j'enregistre normalement. Mais elle avait tant à dire, tant à partager. Moi, elle m'a fait pleurer et rire en même temps. Elle m'a fait du bien. Bonne écoute.
Je suis née le 18 juillet 1957 à la chapelle Saint-Lô. Et j'étais la troisième fille, donc un potentiel garçon. Et je pense que j'ai été très vite la rebelle de cette famille, avec un papa bouché, une maman qui faisait ce qu'elle pouvait, et un petit frère qui me suit, qui a été le premier homme de ma vie, qui est né 18 mois après moi. Et mon papa a fait une faillite dans sa boucherie qu'il avait à Belle-Beille, à Angers. Mes premiers souvenirs de petite, c'est quand même Paris 14e et aussi les voyages, parce que je ne sais pas pourquoi, pour mes parents, j'étais celle qu'on pouvait modeler et emmener partout. Donc, quand ils faisaient leur voyage pour aller chercher l'appartement, le travail et tout, moi, je me retrouvais avec eux dans la voiture, entre eux. Toute seule, mes deux sœurs étaient gardées par les deux sœurs de ma maman qui étaient célibataires. Et puis on m'emmenait, il y avait des réfugiés de guerre dans le pays de mes parents à Saint-Germain-sur-Moine qui habitaient Paris. Donc moi j'allais chez ces gens-là, ils avaient un chien qui s'appelait Chouquette et mes parents me laissaient parce qu'il paraît que j'étais assez facile, j'étais très mignonne. J'avais dû gagner dans un magasin d'Angers un prix de beauté comme dauphine, première dauphine, dont j'ai encore la photo. J'ai gagné un prix dans ma vie.
Contente?
Je sais pas, j'étais toute petite, hein, je devais pas avoir 2 ans à ce moment-là, j'avais des bouclettes, donc j'ai la photo, puis maman me racontait beaucoup ça, et aujourd'hui j'ai pas de mal à imaginer quand je vois la petite fille que j'étais toute bouclée, et bon, il paraît que je racontais beaucoup de choses déjà.
Et est-ce que tu te souviens de la faillite de ton père, de l'ambiance familiale de cette épreuve-là?
Ou non, pas non, mais je me rappelle que... Je me rappelle pour l'avoir travaillé depuis que je portais quand même beaucoup cet homme qui était perdu, puis qui me disait enfin qui me faisait sentir l'aide que j'étais pour lui dans ma présence. Je sais pas pourquoi, hein, je pense que ça a aussi découlé de tout le reste de ma vie. Parce qu'il s'est passé, dans les premiers temps, on était à Paris, puis on, du coup on était 8 rue Bénard, Paris 14e. Et c'était un meublé et on n'avait pas le droit d'ouvrir les meubles, enfin, c'était l'époque quoi. Sur les murs, la tapisserie c'était des moulins. Bon, c'était très bien pour les petits enfants, il faisait très froid, il fallait chauffer au pétrole. Maman nous baignait dans une bassine en ferraille, dans un évier, il n'y avait pas de salle d'eau. Ouais, il y avait une salle d'eau, mais ça ne marchait pas. C'était une toilette et puis... Enfin, bon, voilà, c'était l'époque, quoi. Très petite, j'ai répondu à la maîtresse qui disait quand est-ce qu'on se lave, qu'on se lavait le samedi, quoi. Parce que maman a été, quoi, elle a été convoquée.
Et donc, toi, tes premiers souvenirs, c'est vraiment Paris. Tu as l'impression d'avoir grandi, d'être parisienne.
Oui, et tu sais ce que je voulais dire, c'est que très rapidement, et là je me rappelle pas l'âge que j'avais, mais je crois que j'avais 3 ans et demi, j'ai traversé Paris dans une voiture de pompier, dont j'ai encore le souvenir du tululut, pour aller à l'hôpital Claude Bernard, qui n'existe plus, qui est démoli, parce que je faisais une scarlatine et qu'il fallait de toute urgence m'ôter d'un foyer où j'allais contaminer mon petit frère, qui n'avait pas 2 ans, et mes grandes sœurs. Et j'ai passé Noël là-bas. Dans une chambre, comment ça s'appelait, les grandes chambres, hein, les salles uniques. Et je me souviens que maman, qui souffrait quand même de mon absence, venait à travers les carreaux me voir. Et je me souviens que quand on a déposé un petit garçon et qu'on lui a dit « ta maman va revenir », elle n'est jamais revenue parce que c'était des quarantaines à l'époque. Donc on nous mettait 40 jours dans cette grande salle unique et tous ensemble, et c'était Noël. Donc j'ai passé Noël là-bas, et donc j'ai tous ces souvenirs. Je n'ai rien pu sortir, j'ai eu parce que alors le Père Noël passait donc dans un grand chariot que j'ai quand même vu arriver par le ciel. Bon, pour moi, il y avait un gros truc rouge qui arrivait dans le ciel avec ce chariot, et puis... J'ai eu un bébé noir, et puis ce bébé noir, ben, j'ai pas pu le sortir parce qu'il devait avoir la scarlatine. Et puis mes cartes que je recevais, ben, je pouvais pas les sortir parce qu'elles avaient la scarlatine. Donc quand je suis sortie, je me souviens que maman m'avait acheté des beaux collants et qu'on s'est arrêté au feu rouge. On pouvait pas traverser tout de suite. Je me souviens tout ça, le beau collant. Voilà, c'est ça mes premiers souvenirs de Paris. Et puis ben, les autres avaient fait la fête sans moi, c'était un Noël sans moi, voilà. Mon premier.
C'était un des premiers Noël. Donc. Et l'école, c'était comment ?
C'est plus douloureux. J'allais à la rue Sévraud, c'était l'école. Alors on aimait bien parce que quand on avait des petits sous, on pouvait aller chercher des petits bonbons. C'était encore le moment des Pierrot Gourmand. Il y avait toutes les étalages de bonbons, puis ça coûtait pas cher. Les Pierrot Gourmand, c'était des magasins de. Tu sais, les Pierrot Gourmand, on en trouve encore, mais c'est des faux. C'est des espèces de trucs qui se tiennent comme ça avec les sucettes dessus. Il y a le Pierrot, puis on met les sucettes dessus. Et donc, il y avait ces magasins. Et on allait chercher, puis au sursaut, on allait remplir les bouteilles de vin de mon papa. Juste en face, il y avait Kiravi. J'ai encore... c'est parce que ça passe quand même, les souvenirs, ça passe par les odeurs. Donc, je me souviens très bien l'odeur du vin rouge, les gouttes, tout taché. Donc, on allait remplir les bouteilles avec les étoiles autour, là. Les bouteilles de papa, de rouge. Et puis, on avait le droit. Enfin, on n'allait pas à l'école avec. Mais c'était quand même un chemin qui était... Et puis... donc, on avait ces petits bonbons caramel, là, qui coûtaient pas cher, voilà. J'avais très peur d'aller faire pipi à l'école. Parce que c'était un moment où on parlait des messieurs qui chopaient les petites filles par-dessus les murs. Donc maman, sur le chemin, nous disait « il faut pas marcher sur le bord du trottoir et il faut pas marcher sur le bord des maisons. » Parce que sur le bord du trottoir, il y a une voiture qui te chope et sur le bord des maisons, il y a une porte qui s'ouvre et qui t'emmène. Donc je me souviens de tout ça, il fallait vraiment marcher vraiment tout au bord.
Et pourquoi les toilettes du coup ?
Et les toilettes, ben, je pensais qu'on pouvait me choper. Parce que les toilettes, c'était dans la cour tout le temps à l'époque. C'était des portes en bois un petit peu. C'est pas la guerre des boutons, mais enfin, un petit peu après la guerre des boutons. Et donc, c'était des toilettes comme ça. Donc, moi, le haut mur, il y avait un bonhomme qui pouvait me choper par-dessus. Et je crois que c'est en maternelle que j'ai échangé ma médaille en or, je ne sais pas contre quoi. Mais en tout cas, comme quelque chose qui n'était pas en or. Donc, c'était pas bien.
Ta médaille.
Et puis, après, ce que je me souviens surtout, c'est l'arrivée en primaire. Et là, c'est un petit peu plus douloureux. Parce que j'étais, je pense que j'étais une gamine assez douée, mais que je supportais pas de l'être, et puis que j'avais une pression énorme, et que je disais déjà, quand je serais grande, je serais infirmière. Est-ce que c'était lié à Claude Bernard et mon hospitalisation en quarantaine ? Quand je serais grande, je serais infirmière. Donc j'avais le projet, et j'entendais déjà, mais elle se débrouille tellement bien, ce sera un grand médecin. Quand on voit ce que c'est un médecin et une infirmière, ça n'a rien à voir, puis ça ne me correspond pas du tout. Et donc, ça a été plus difficile parce que je me battais beaucoup avec Isabelle Rapin, que je n'ai jamais retrouvée, qui voulait la première place, mais moi je la voulais aussi. Voilà. Je ne sais pas, j'étais particulière, je faisais des trucs de ouf, mais vraiment des trucs de ouf. Et c'est pas bien ce que je vais raconter, mais... Je me souviens, toute la classe était contre moi parce que je tirais mon cartable, parce que j'avais en fait volé, je crois, une gomme à un copain et que je disais que c'était la mienne. Et à l'époque, l'école, c'était beaucoup plus sévère. C'était pas du tout pareil. Et donc en fait, je pleurais, je piquais des crises. Il fallait toujours que j'aie la bonne réponse et je l'avais en général tout le temps, avant tout le monde. Mais quand je l'avais pas, c'était dramatique. Donc je pleurais, on me traînait dans les autres classes. C'est horrible ce que je te raconte.
C'est horrible.
Elle me traînait, je me souviens, elle me traînait par les bras parce qu'évidemment je me débattais. Et donc j'ai des souvenirs horribles quoi, de ce moment-là. Parce que je pense que j'étais atypique et puis je devais être perturbée dans ma tête. Et puis de toute façon, il fallait que je sois la première. Donc Isabelle Rapin, je rends encore les escaliers de cette école. Et moi, je me disais, mais je vais la pousser.
Et ça, tes parents, ils étaient assez stricts ?
Oui, maman, elle était... Papa n'était jamais là parce qu'on n'avait pas de fric, il fallait rembourser la faillite. Et tous les mois, il y avait un monsieur qui venait chercher les sous. Donc papa, il travaillait deux fois. Il travaillait la nuit aux Halles, il était fort des Halles. Il travaillait le jour dans une boutique à Montrouge. Il faisait presque tous ses trajets à pied pour ne pas payer son ticket de bus. Mais entre la boutique et le fort des Halles, il allait au bistrot Bertolin au bout de la rue Bernard. Et ça, je crois que maman, elle vivait avec nos allocs. Enfin, c'était difficile pour maman. Parce que mon papa, il a quand même traîné. C'était pas que c'était un... Il aimait boire. Mon père, il disait qu'il ne buvait pas plus que les autres. Donc, voilà. On ne sait pas ce que buvaient les autres en général. Mais c'était, voilà, donc c'était une histoire familiale tendue. C'était petit. Moi, j'avais un tout petit lit, genre comme ça, pour moi. Et puis je dessinais sur les portes la nuit, je me souviens. Mes sœurs dormaient dans le même lit et mon petit frère dormait avec mes parents. Je faisais beaucoup de bêtises, je pense, parce que je me souviens avoir... j'avais une petite règle bleue que je mettais sur le bord de la fenêtre. On devait être au troisième étage, puis que je lançais sur les gens. Petite, hein. Et aussi, les bons souvenirs que j'ai, c'est que nos carrés de chocolat, c'était du gros chocolat, et puis il y avait des bulles derrière. Et s'il y avait des bulles, on pouvait faire des vœux. Donc je me rappelle que c'était ça, le goûter, et qu'on pouvait manger les petites... on pouvait faire autant de vœux qu'on avait de bulles, mais je ne sais pas ce que j'ai fait comme vœux.
Et du coup, tu as continué de nourrir le rêve de devenir infirmière jusqu'au bout ?
Oui, alors après, mes parents, qui vivaient dans pas grand-chose, ont eu l'opportunité de partir en région parisienne, 10 rue des Joncs, près de l'Oly. C'était la campagne, jusqu'à temps qu'il y ait une déviation à 4 voies devant chez nous, mais voilà. Et donc, c'était grand, on avait un peu plus de place, et j'ai changé d'école, et j'étais à l'école Hélène Boucher, et j'étais en CM2. Et là, pareil, j'avais vraiment des comportements... très, très curieux. Quand j'en vois maintenant, je me disais, mais si j'avais des enfants comme ça, je me dirais, mais je fais quoi ? Je fais quoi de ça, là ? J'avais raconté qu'il y avait un bonhomme en noir sur le toit. Bien sûr, les filles ne le voyaient jamais. Mais moi, je le voyais. Et le temps que je dise, mais il est là, eh ben, il n'était plus là. Et je montais dans les classes qui étaient désertes en haut et je mettais des mots de l'homme en noir. Et après, les parents se sont alertés de quelqu'un qui racontait des histoires bizarres à leur fille. Et puis, je ne sais même pas si ma mère avait été convoquée, mais je me rappelle que j'avais été bien boostée. C'était l'époque quand même, quand on faisait des bêtises, on avait des combinaisons. Et devant tout le monde, on nous soulevait les jupes. C'était en 1967-8, par là. 68, je pense. Oui, CM2, j'allais sur... Ça devait être 67-68. On nous soulevait la combinaison et on nous fessait devant, devant la cour, quoi. Et moi, j'ai pas des bons souvenirs. J'avais un problème avec le che et le se. Et je me mettais dans des états pas possibles si j'arrivais pas à les dire. Je pleurais,
Est-ce que tu te souviens un peu des années 68 à Paris ?
Bah oui, je m'en souviens beaucoup. Je vais te raconter un truc. Ça, c'est des souvenirs 68. Donc, ils étaient... Quand même, la rue Monsieur le Prince, tu connais Paris ? Parce que moi, je connais trop, trop bien Paris. J'aime trop Paris. C'est juste en dessous le Luxembourg. Il y a la place et puis toutes les premières boutiques. Et puis la première rue, quand on descend du Luxembourg sur la gauche, c'est la rue Monsieur le Prince. Donc, mes parents, ils ont vécu mai 68. Et maman, elle, le soir, elle disait « Je rase les murs, mes enfants, je rase les murs. » Elle rentrait en rasant les murs. Parce que toute la journée, ils bossaient avec les grilles qui montaient, qui descendaient, les pierres, les cailloux et tout ça, et ils étaient effrayés. Et du coup, quand elle rentrait à Montgeron où il n'y avait plus rien, elle rasait les murs de trouille.
Et donc après, tu passes ton bac ?
C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je passe mon bac et comme disait le professeur de physique, c'est dommage qu'il n'y ait pas une option tricot et une option flipper. Parce qu'en fait, j'étais pas bien en cours et je foutais rien. Donc, j'ai raté mon bac une première fois. Et puis, la deuxième fois, je l'ai passé en candidat libre. Mais comme je voulais pas rester... parce que déjà, au lycée, je séchais. Je l'avais dit. Énormément les cours. Et je séchais beaucoup. Et le lycée Rosa Parks, il a des pics au-dessus. Hein. Il fallait vraiment grimper sur la grille pour pouvoir rentrer parce que c'était fermé et tout. Wow. Puis je passais beaucoup de temps chez Boule parce que j'adorais le flipper, j'aime toujours. Donc je passais mon bac une première fois, et la deuxième fois, j'ai pas voulu surtout rester chez mes parents vraiment. Donc je suis partie travailler et je travaillais comme cantinière dans les AEDF. J'ai fait plein de jobs comme ça. C'est ça, un peu mélangé parce que parallèlement quand même si j'ai fait beaucoup de bars, de crêperies, des choses passionnantes dans Paris, hors Paris, tout ça. J'ai fait une colonie de vacances avec ma pote Françoise, qui était ma pote de quatrième. Ma meilleure pote, on était dingue de Nougaro et elle avait été dans une colo où elle avait, je vais dire, couché avec le dirlo Ritu, qui avait 43 ans. Elle me dit, il faut que tu viennes dans ce colo parce qu'il faut que tu connaisses ce mec. Bon, évidemment, le projet, c'était pas de connaître Nougaro, puisqu'il ressemble à Nougaro, mais c'est pas Nougaro, mais coucher avec, voilà. Tout ça, c'est fait. Mais dans ce colo, j'ai rencontré celui qui est devenu mon premier mari. Mais j'avais 18 ans.
Et jusqu'à cette colo, les garçons t'en fréquentaient
J'étais amoureuse de Gérard Bouedec, qui avait 2 ans de plus que moi. Je l'ai retrouvée dans un bar... Et il a dû me trouver là, cette fois, il me trouvait gamine, tu vois, il n'en voulait pas. Puis là, dans le bar, je lui sers sa bière et puis il me regarde, il me dit, oui, tu étais Gérard Bouedec. Genre, tu me fais rien du tout, tu sais. Et mon premier mari, on s'est marié parce qu'il était breton et qu'il ne voulait pas faire son service militaire, tout ça. Donc il a été pistonné, il a fait son service militaire, mais pistonné, donc. À Paris, dans un bureau, bref. Mais c'était quelqu'un qui allait pas bien. Et là, j'ai vécu la misère. Voilà. Et maman l'a su que je vivais la misère. Elle m'a aidée à partir. Fort pour une mère. Hein.
Ça veut dire quoi, vivre la misère ?
Ça veut dire, on te fait faire des trucs que tu veux pas faire. Et puis, se faire taper, tout ça. Beaucoup de violence. Il était gueudin, mais fou de Antonin Artaud. Donc il adorait Antonin Artaud. Il était très perturbé dans sa tête. Il était très, très violent. Ça n'allait pas. Il a fait 2 TS, je crois. assez violente aussi. Et puis à l'époque, bah, la police, elle s'en fichait vraiment complètement. Quoi. T'allais, tu disais, mais il a, je sais pas quoi faire, il a la tête dans le four. Bah tant pis.
Et toi, tu es allée à la police plusieurs fois ?
Je suis jamais allée porter plainte. Mais quand maman l'a su, elle m'a dit, ma petite fille, mes parents, ils s'aimaient, mes parents. Mais là, Jean-Paul, ça a été les premiers dégâts, quoi.
Et comment elle l'a su ?
Je pense que je l'ai dit, parce que c'était un truc, je vivais un enfer. Hein. Puis il y avait les TS, c'était...
C'est quoi les TS ?
Les tentatives de suicide. Enfin, puisqu'ils ne mourraient jamais, c'est des tentatives, on va dire.
Et comment...
Comment je m'en suis sortie, c'est qu'en fait, aussi, ce qui s'est passé de merveilleux, c'est que ma pote Françoise... Elle était partie vivre dans le sud et elle avait accouché dans une ferme, à cour fermée, dans le Tarn, d'une petite fille, mais sans le médecin, enfin, si, avec le médecin du coin, c'est tout, enfin voilà, Alice. Et que on s'est retrouvés, je ne sais pas comment, et du coup, elle m'a dit, viens nous voir. Et en fait, presque tous les week-ends, alors là, à ce moment-là, j'étais la secrétaire du docteur Dalloz Bourguignon à Saint-Mandé, et j'allais tous les week-ends. Et c'était le grand temps de ce qui n'existe plus, le train de nuit. Et dans les trains de nuit, il y avait toutes les postières qui habitaient le Tarn, mais qui travaillaient toute la semaine à Paris, et qui, pour gagner leur temps, le train du vendredi soir. Donc moi, le vendredi soir, je prenais le train. Et puis le dimanche soir, je faisais comme elle. Voilà. Et donc, en retrouvant Françoise, j'ai retrouvé la fille que j'étais, qui avait besoin de vivre, quoi. Et... forcément, c'était une communauté. Alors, il n'y avait pas d'eau, hein, aller au puits. Il n'y avait pas de carrelage par terre. Et il y avait une énorme cheminée où tu faisais des feux, tout ça. Voilà. Donc moi, c'était une belle période de ma vie. Je dis que j'ai vécu en communauté, mais vraiment, quelque part, j'ai vécu en communauté. Ah, mais ce moment-là, j'étais plus chez le médecin, j'étais en chômage pour cessation. Enfin, je ne sais plus, il n'avait plus besoin que d'une secrétaire. J'avais pas voulu coucher avec lui, je crois aussi. Déjà, c'est ouf, hein, le parcours d'une femme.
C'est vraiment ça ?
C'est vraiment ça. Enfin, peut-être qu'il avait plus besoin de moi, mais en tout cas, sa secrétaire du matin, c'était une belle belette blonde et tout. Et ils étaient ensemble. Et moi, il a eu des gestes avec moi. Et moi, ça me disait rien, ce mec-là, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est mon refus ou ma manière de me comporter qui fait que, je me suis retrouvée au chômage technique, voilà, c'est ça. Et puis, c'est compliqué ma vie, hein.
Attends, j'ai des questions. Comment tu en viens à épouser ce gars que tu rencontres en colo ?
Parce qu'on est allé le voir. J'étais une jeune fille extrêmement compliquée, très bien faite de corps, mais mal dans ma tête, besoin de partir de chez mes parents, tout ça. Et puis, si je pouvais plaire à quelqu'un, et alors j'ai tout fait pour plaire à ce type. Et aussi par l'écrit, parce que comme il était en Bretagne, à Landivisio, et moi à Montgeron, on s'est écrit. Donc par l'écrit, petit à petit, s'est créé une relation. Donc c'était au mois de juillet, puis au mois de décembre, il venait à Montgeron. Et après, il devait faire son service militaire, tout ça. Enfin, il y avait beaucoup de mensonges de sa part. Je ne savais pas tout ce qu'il faisait. Et tout de suite, je suis rentrée dans cette famille à Landivisio, et lui dans la mienne. Il était très beau. Il était né le lendemain de moi, la même année. On était bien ensemble.
Tu étais amoureuse ?
Oui, je pense que j'étais amoureuse de lui. Il était vraiment beau, ce mec-là. Moi, ça me portait en la beauté pour moi. Donc, c'était... Et bon, après, comme il fallait qu'il fasse son service militaire, et comme on partait à Paris, on habitait avenue de Saint-Mandé à Paris, dans le 12e, et après à Saint-Mandé. Et donc, c'est l'année d'après que ça s'est gâté, parce que... Mais je savais qu'il était violent, parce que quand j'allais le voir à l'Andivisio, il m'avait déjà brutalisée.
Et ça commence comment la première fois ?
J'sais
pas. Tu t'en souviens ou pas ?
Non, je me rappelle parce que j'ai une photo où c'est en bas de leur maison où il m'a repoussé sous le lit et qu'il m'a jeté un coussin à la figure. Oui, puis il y avait aussi tout ce que c'était un grand demandeur sexuel et c'est pas que je l'étais pas, mais c'est que c'était abusé, voilà. Il y a eu l'année donc, où je l'ai rencontré, l'année où il est venu et on s'est marié, et l'année où j'ai réalisé, et mais là, mais non, c'est pas ça ma vie là-haut. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et donc j'ai commencé à aller en communauté. Alors je ne dis pas, quand je rentrais, je chantais la fumée et tout ça. Il s'est tout de suite douté qu'il y avait quelque chose. Puis j'ai tout de suite retrouvé un de mes meilleurs potes qui s'appelait Fabrice, qui est mort aussi. Wow, ils sont tous morts. Fabrice, il était homo. C'était un gars adorable et il était amoureux du même mec dont j'étais amoureux à l'époque, Patrick, au lycée. Donc ça nous faisait, on était toujours tous les trois ensemble, c'était tous les trois frisés, on était heureux ensemble. Et j'ai retrouvé dans cette communauté Fabrice et son frère Laurent. Et puis j'ai craqué sur Laurent, voilà. Il m'a dit, oh, c'est la liberté, t'inquiète et tout, voilà, bon. Puis surtout, bah, j'en ai rencontré un autre et ça a été, là je me suis dit, putain, c'est ça le vrai amour. Il était marié, il avait deux gamins. Mais alors ça a été l'amour fou pendant des mois et des mois.
Et jusqu'à cette période-là, tu n'es jamais tombée enceinte?
Non, ah bah non. Ah, c'est toute une histoire. Le petit Ritou de 43 ans, quand il a vu arriver la petite de 18 ans avec qui voulait se farcir, hein. On a pris des douches au début. Hein. Moi j'étais consentante, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, mais tu n'as pas de moyen de contraception? Alors, la jolie histoire, c'est quand même que ma mère, avant de partir, m'a dit « Et ne t'avise pas de coucher avec un garçon. » Et ben moi, j'ai dit à maman « Si tu crois que je t'ai attendue. » Parce qu'effectivement, mon premier amant devait s'appeler Christian. Mais voilà, j'avais déjà couché avec un garçon en partant dans ce colo. Donc, le Ritou, il était dans tous ses états qu'une fille de 18 ans avec qui il couchait, il n'avait pas déjà. Donc, il a pris rendez-vous chez le médecin. Et le lendemain matin, je partais avec le gestionnaire, alors que normalement je bossais, je partais avec le gestionnaire prendre la pilule, voilà. La boîte de pilule était ronde, je me souviens, il fallait... J'arrivais pas à la prendre parce que je me disais déjà, peut-être la pilule ça fait mourir. Donc la pilule, c'était quand même les débuts en fait. Et ma mère, elle l'avait pas connue la pilule, elle, parce que mon frère, il serait pas là.
Et tu, après, tu divorces de...
Alors après, donc, dans la foulée de la communauté de Bab, donc il s'appelait Bab, il s'appelait Pierre en fait, mais donc c'est au mois de janvier qui suit que ma mère me dit, tu rentres à la maison, c'est fini, on va déménager tes affaires, c'est pas possible et tout. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai plus jamais vu ce fameux Jean-Paul. J'ai gardé ce qui était de lui, les trucs d'Artaud, enfin voilà, on a déménagé. Et puis je suis retournée chez ma mère et je suis retournée travailler dans les bars. Je demandais des 50 centimes pour jouer au flipper. C'était pas cher. Les patrons, ils abusaient de moi. Hein. J'arrivais à 7h, je terminais à 10h. Je savais pas, ils sauraient une serpillière. Je mangeais debout parce qu'eux, ils mangeaient assis. Mais moi, il fallait que j'aille servir les clients. Il y avait encore... j'en ai retrouvé là à Paris, les gamelles en mélanine, encore ah, ça a un nom, qu'on retournait là. Et quand les gens ils me laissaient 5 centimes, je leur laissais les sous dessus, parce que je ne voulais pas 5 centimes, parce que le soir c'était long à compter les pourboires. Et c'est une grande période de ma vie, parce que là j'ai eu d'autres aventures, bien sûr. Ma mère m'a reproché, elle m'a dit un truc très dur. Elle m'a dit, c'est mieux les pattes en l'air que je sais pas quoi, enfin, en tout cas, voilà, c'était très dur.
T'avais eu une éducation sexuelle?
Non, ça se fait pas en famille, je suis infirmière scolaire, hein, ça se fait à l'école. À l'époque, il n'y en avait pas. Hein. J'ai aucun souvenir Ce que j'ai souvenir, c'est du lait. Moi, je fais partie des gens qui avaient les petits bocs de lait parce qu'il y avait un surplus de lait, puis que tous les matins, on nous donnait du lait chocolaté, c'était super bon. Dans des bouteilles en fer avec la paille. Et j'ai eu aucune éducation sexuelle. Même les règles, elles arrivaient un peu comme ça. Et puis comme moi, j'étais d'une famille judéo-chrétienne, puis qu'on me disait que de toute façon, quand on est parti, on est au ciel, puis on sait tout. Moi, je me disais, mon grand-père, il me voit avec mes règles, c'est pas possible. Et donc, j'ai eu aucune éducation sexuelle. Puis c'était pas marrant, les serviettes périodiques à l'époque. Hein. C'est les trucs qu'on accrochait. Tu sais ça, tu en as vu?
J'en ai jamais vu.
Alors, je sais que maman me racontait qu'elle, quand elle, parce qu'il y avait des usines de chaussures là où ils ont été élevés, mes parents. Donc, elle dit, quand on rentrait de l'usine, il fallait qu'on mette tout à tremper dans les bassines et c'est nous qui l'avions parce que la, leur mère, elle, ne voulait pas laver tout ça. Donc, c'était elle qui l'avait. C'était des trucs en éponge. Je ne sais même pas si j'en ai pas encore parce que maman, il y en avait encore beaucoup qui servaient de chiffon. Et moi, c'était des bandes là, comme ça. Puis, il y avait... deux morceaux qui dépassaient de chaque côté, et on avait un petit truc pour ficeler dedans, quoi, de chaque côté de la culotte. Donc autant dire que ça bougeait, on en avait partout. Moi, je sais que vers mes 17 ans, j'avais toujours des manteaux longs parce que j'avais peur d'être tachée, quoi. Puis on parlait pas de ça. Parce que moi, je suis peut-être pas si vieille, mais du coup, moi, je suis dans un bout d'un siècle, mais là, je suis en train de faire un... Enfin, je claque des doigts. Un autre grand bout d'un autre siècle. C'est-à-dire que moi, je suis passée de tout ce qui était étriqué. Enfin, c'est plus le même monde aujourd'hui. Mais j'en profite grandement de ce nouveau monde, comme je ne suis pas très vieille. Voilà. Et c'est surtout, il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Ma maman avait une sœur aînée qui s'appelait Clarisse, comme l'une de mes petites filles et comme ma grand-mère. Et Clarisse était certainement la rebelle de cette famille. C'est Clarisse qui m'a appris le beau, c'est-à-dire ça c'est beau, regarde ce mot, regarde ce paysage, regarde cette couleur. Voilà. Et Clarisse est ma mère spirituelle pour moi. Et donc Clarisse me dit « Non mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu voulais pas être infirmière dans ta vie ?»« Oui mais tu sais bien, j'ai raté mon bac une fois, puis la deuxième fois j'ai eu le certificat de fin d'études, mais voilà, puis être infirmière. » Elle me dit « Oui mais enfin tu vas terminer dans les bars ?»« Non, t'as raison, ça peut être sympa. » Donc je me suis inscrite à l'école d'infirmière et j'ai eu le concours parce que comme j'avais le dernier truc, le certificat de fin d'études, ça m'a permis de... Ça a été très dur l'école d'infirmière parce que je me retrouvais encore dans le statut d'élève. Mon Dieu, c'est voilà. J'étais pas conforme. Je mettais des cuissardes en moumoute avec des collants en laine et puis des jupes. On dit à la racine de jeu, mais c'est pas bien. Très courte. Je m'étais fait reprendre par le. Je crois que j'ai redoublé ma première année parce que c'était l'école pour moi, c'était le bazar total, quoi. Il fallait se contenir, c'est pas possible. Et puis j'ai quand même eu mon diplôme assez facilement. Ça s'était espacé avec mon grand amour là-bas. On avait décidé qu'il avait ses petits-enfants, Chane et Mélusine, tout ça. Enfin voilà. Puis que c'était en plus un homme héroïnomane. J'ai très bien vécu avec lui. On a vécu des choses folles. C'était un très 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 grand amour. Et donc une fois infirmière. Comme pendant les vacances, j'allais travailler dans un hôpital, je me suis fait embaucher dans un hôpital. Je voulais aller travailler en cancéro parce que maman avait eu son cancer. Et finalement, je me suis retrouvée en EHPAD. On vivait des trucs avec les vers solitaires, tout ça. Comme je sortais d'école d'infirmière, moi, je voulais faire des pédiluves, des capiluves. Et là, je rencontre deux gus, Alain et Marc. Qui faisaient pas de pédiluve ni de capiluve, buvaient la pilse des vieux et puis les coudes rouges. C'était à côté de l'ancien IGR qui était désaffecté. On arrivait à quitter le service et à aller boire des coups, aller se balader parce que c'était une ambiance de ouf. Et je suis tombée coup de foudre avec le Alain, voilà, qui était un héroïnomane. Et moi, ça a été un coup de foudre et je me suis dit, je m'étais promis de plus aimer. J'avais eu beaucoup d'hommes entre-temps. Et d'ailleurs, au moment où j'ai rencontré Alain, j'avais un autre Alain dans ma vie qui était à l'école d'infirmière, et puis Jean-Louis. Et quand même, j'étais légère. Hein. Et j'habitais rue du Sommerard. J'habitais 25 rue du Sommerard à Paris, et j'ai vécu la première fête de la musique, en 82. Et j'ai vécu 81 aussi, parce que j'étais déjà en 81, j'étais déjà 25 rue du Sommerard. Donc j'ai traversé la place de la Bastille avant le ouf de... Voilà.
Ça devait être dingue.
C'était dingue. Mais ce soir-là, j'étais pas très bien, donc j'ai pas vécu la liesse, mais je me rappelle avoir passé la place de la Bastille en revenant de chez mes parents pour aller... c'est dans le 5e, la rue du Sommerard, donc c'est le boulevard Saint-Germain, c'était le chemin. Ouais. Donc voilà, et donc j'avais dit à Jean-Louis, tu sais, moi t'es bien, mais enfin, si je rencontre un grand amour, toi et moi c'est fini. Donc j'ai largué le petit Alain, puis Jean-Louis, et j'ai vécu une grande histoire d'amour avec Alain, qui est le père de mes enfants. Voilà, mais qui était un toxicomane.
Et qu'il est resté ou qu'il a réussi ?
Alors moi, j'ai dealé tout de suite en me disant, mais je crois qu'on peut vivre sans la drogue. Et donc je pense que si on continue ensemble, j'étais fin amoureuse. Hein. Comme de Bab, c'était des hommes qui... Voilà. Il y a des hommes qui passent dans la vie, puis il y a des vrais, des trucs de ouf. Ce que je vis encore aujourd'hui. Et... Il a arrêté, mais pour arrêter, il fallait beaucoup de substituts et rapidement, il s'est mis dans l'alcool. Enfin, j'ai vécu des années très difficiles jusqu'à temps qu'il accepte de faire une cure pour l'alcool parce qu'en fait, il remplaçait la drogue. Bon, l'héroïne, c'est une drogue dure. Moi, j'avais vécu avec Bab quand même des moments d'overdose, pas avec Bab lui-même, mais dans des ambiances où voilà, c'était glauque et où on voit des gens qu'il fallait secouer avant qu'ils meurent. Hein. Et donc moi je voulais pas revivre ça, mais donc l'alcool ça a vraiment remplacé, ça a été assez douloureux. Donc de 80, j'ai connu Alain en 82 jusqu'en 85, jusqu'à temps qu'il accepte de faire une cure. Je l'ai aussi poussé à faire autre chose que rien, parce qu'en fait il était à l'hôpital parce que ses parents avaient été contremaître et infirmière et qu'il fallait juste de l'argent. Donc j'ai embarqué ce mec dans une vie qu'il voulait certainement pas non plus.
Et t'es tombée enceinte?
Oui, c'est-à-dire que le jour où je suis allée me faire embaucher, le 15 ou 16 janvier, elle m'a dit, et puis vous n'attendez pas d'enfants, genre, ces filles qui font des enfants et tout. Et puis, en fait, j'ai été enceinte le 2 février pour une petite fille qui est née le 2 novembre. Leur papa allait pas trop mal pendant tout ça, ça a un peu... On était toutes enceintes, mais en fait, en cancéro, il y a 20% de plus de fausses couches. Donc, il y a beaucoup de filles qui faisaient des fausses couches à cause des antihistaminiques. Puis, on travaillait les antihistaminiques à main nue. Après, on mettait des gants. À un moment, parce que bien sûr, à un moment, on s'est dit, il y a trichomapin, on mettait des gants. Puis après, on mettait des hautes afflux laminaires. Et puis après, quand on était enceinte, on n'avait plus le droit d'aller poser les perfs. Et désormais, c'est tout fait à l'abri, en pharmacie. Enfin, bon, c'est plus du tout pareil. Mais c'était un service de pointe. Et puis, comme on vivait quand même la mort avec des gamins de notre âge, voire des petits. Hein, moi, j'ai Georgios, par exemple, le grec qui avait 10 ans. J'ai mis des années à me remettre de ce gamin. Et puis, dont la mère grecque disait, c'est normal, j'ai avorté avant lui. Le bon Dieu m'a puni. Et puis de fil en aiguille, parce que je ne crois pas en Dieu, mais je dis c'est le bon Dieu qui les envoie. Et est arrivé un deuxième bébé, 2 ans plus tard, puis un troisième bébé, à peine 3 ans plus tard, et j'ai arrêté en pleurant, parce que avec les collègues on se marrait bien, tout ça. Enfin, bon, moi j'ai besoin de pas d'avoir une cour autour de moi, mais d'avoir une vie sociale. Tout ça avec un papa qui allait quand même pas toujours bien. Donc les enfants arrivaient dans les périodes paisibles. Et puis il y avait des... Voilà. Donc Apolline, la troisième, qui est née en août 90, j'ai arrêté mon activité. J'ai beaucoup pleuré. Parce que c'était pas mon truc. Puis je voulais allaiter.
C'est quoi qui était pas ton truc ?
D'être à la maison à élever des enfants. Puis les enfants, c'est rude, quoi. Ça parle pas... où ça parle toujours de la même chose. Après, j'étais déjà, alors là, j'étais très en avance. Alors, il y a un truc qui est sûr, c'est que dans mon parcours de vie, je suis précurseuse de beaucoup de choses. Comme le pantalon en jean déchiré de mes 17 ans qui dérangeait ma mère, ça dérange plus personne aujourd'hui. Et à l'époque, moi, j'ai pas voulu élever mes enfants comme ma mère nous a élevés. Je voulais surtout les allaiter. Et je voulais que mes enfants soient des personnes et pas des petits trucs qu'on dresse. Maman n'était pas affectueuse, elle ne s'occupait pas beaucoup de nous, elle n'était pas écoutante. Elle ne comprenait pas du tout comment j'élevais mes enfants, mais elle disait, mais ils sont formidables. C'est vrai, ils sont. Et je me suis rapprochée de la Lait Chili, qui était une association de mamans qui allaitent. Et rapidement, j'ai fait ma formation. Et rapidement, j'ai rencontré des femmes comme moi. Ça me sortait de chez moi. au moins un jour par mois. Et là, j'ai rencontré plein de gens formidables, quoi, qui sont restés des amis. Et puis aujourd'hui, j'ai amené la Leche League dans le Jura, parce qu'il n'y avait pas la Leche en 1995. Et quand je suis arrivée, j'attendais le cinquième, parce qu'entre-temps, il y avait eu le quatrième. Alors, ce qui nous a fait partir donc, de là-bas, donc, j'étais animatrice. Donc, c'était bien, on avait un HLM tout neuf qu'on avait obtenu parce que le papa d'Alain était dans le parti communiste, puis que Villejuif était communiste, enfin, on n'était pas trop mal. En 89, il faisait n'importe quoi, mais pas au niveau de son lumière, mais au niveau... Enfin, c'était... J'ai vécu aussi là, la violence, et je n'y gérais pas, quoi. J'ai déjà écrit ça, des textes qui ont été... sur ça, parce qu'en fait, tu sais pas pourquoi tu te laisses taper, quoi. De toute façon, tu n'as pas, en tant que femme, tu n'as pas la force. Tu n'as pas la force.
Comment ça commence ?
Ben, y a l'alcool. Il y a l'alcool, la souffrance, et tu réponds pas aux besoins d'amour de l'autre, et ça le met dans tous ses états. Toi, tu te dis, bon, allez, je vais le ramasser, je vais le coucher, mais ça lui plaît pas, alors, tu vois, il y a... Il y a le désaccord, je pense qu'il y a le conflit de couple qui existe dans tous les couples, sauf que les couples, ils ne règlent pas par les coups, quoi. Et ça, je dois dire que sur ce sujet, Alain, qui on n'a pas terminé, il est mort maintenant aussi. Mon premier mari est mort, le deuxième aussi. Et il a quand même reconnu qu'il avait été violent et qu'il n'en était pas fier. Cependant, la dernière relation que j'ai eue avec lui... Et là, j'ai dit, c'est terminé. Il s'était déjà excusé pour t'en avoir été violent. Il m'a lancé une tomate à la figure. Pour moi, c'était un geste violent. Lui disait, ce sont tes mots qui sont violents. C'est très difficile parce que quand on est en amour, et je pense que j'ai aimé cet homme-là jusqu'au 21 janvier 2011, précisément, eh ben, tu dis, pour ramasser quelqu'un qui ne va pas bien, tu le ramasses. Et puis tu le confortes que tu l'aimes. Et puis quand il est dessoulé, quand il est, voilà, ben tu lui dis, c'est pas possible, ça peut pas durer, il faut faire quelque chose, tu peux pas me faire ça, quoi. Voilà. Et donc du coup, ben, ça réengrange le sentiment de mes amours chez lui. Et donc effectivement, mes mots sont pas forcément gentils. Voilà.
Et pourquoi le 21 janvier ?
Parce que... Donc on est venu habiter dans le Jura en 95, enceinte de mon cinquième enfant. Là, il y a eu plein de soubresauts. Et dans le Jura, c'était encore plus difficile parce que je connaissais au début pas grand monde, sauf quand j'ai monté mon groupe de Leche League, mais j'étais vraiment seule. Et là, il faisait des trucs, il prenait la voiture, il partait, je ne savais pas où il était. Enfin, je me suis retrouvée des fois à la gare toute seule, revenir de Paris, d'un séminaire Leche League, j'avais personne. J'avais mes deux petits à côté de moi et ma valise. Et il avait disparu, il avait laissé les enfants. Enfin, il se passait des choses quand même qui n'étaient pas faciles à vivre. Et c'était dans le Jura. Et dans le Jura, on ne raconte pas trop sa vie. Mais par contre, si quelqu'un a le malheur de voir que la vie d'à côté, ça déconne, ça se sait, quoi. Et alors, parce qu'en 2001, je n'avais pas travaillé depuis 90, Alain me reprochait souvent de ne pas savoir ce que c'était qu'une équipe et de ne pas savoir ce que c'était que des collègues et de ne pas savoir ce que c'était d'aller au travail. Alors, je lui ai dit, tu sais pas, j'ai une opportunité, j'ai foncé, je ne raconte pas tous les détails, j'ai réussi à avoir le poste d'infirmière scolaire qui était entre ma maison, 15 km d'un côté et deux de l'autre. J'ai eu ce poste. Pour moi, c'était fabuleux parce que c'était encore les enfants. Et donc, j'ai repris le travail, puis je lui ai dit, tu sais pas, puisque on n'a pas si tant besoin d'argent, ben, tu restes à la maison. Bon, c'était très compliqué pour lui parce qu'il était fatigué, il avait besoin de beaucoup de sommeil, il avait des problèmes de santé, tout ça. Donc, ça était difficile, mais bon, ça lui a fait un peu de temps libre. Et puis, c'était un papa très gentil, pas toujours investi puisqu'il n'était pas tout le temps là. Et pas toujours responsable, mais par contre, il était adorable. Enfin, quand il est mort, c'était la semoule de couscous de papa et la semoule de couscous de papa. Enfin, c'était un père très, très gentil, beaucoup plus doux que moi, beaucoup plus gentil, beaucoup plus... C'était un bon père pour mes enfants. Bah, sauf que matériellement...
Et quand il devenait violent, c'était que sur toi ?
Oui.
Et ça, les enfants, ils le savaient ?
Ah non, c'était sur sa basse aussi, parce qu'Alain, il était bassiste. Donc, c'était sa première femme, je crois. Donc, des fois, moi, j'ai vu la basse traverser la maison. Après, bon, à Paris, on avait encore la télévision aussi. Il avait des accès très, très forts de violence. Qui était, lui, il a failli passer son père par la fenêtre une fois aussi. Alcool, hein, parce que je pense que sa basse et moi. Un jour, ça a été loin, il m'a donné un coup de poing. Et il y a une voisine copine qui m'a dit, il faut que tu ailles au CDFF. Je ne l'ai jamais fait. Et puis donc, le 21, je faisais des stages quand il me semblait adapté à ma pratique pour le bien-être des enfants. Ce qui fait que je faisais des stages d'écriture, de théâtre, parce que j'avais monté un atelier théâtre, soit avec les profs, soit toute seule, parce que je trouvais que c'était... Et puis les enfants, ça leur faisait du bien. Le jour, il avait invité une junkie, qui pourrait tout être à la fête là, avec son copain. C'est tout, il avait bien vécu. Et moi, en fait, je protégeais ce type de tout. C'est-à-dire que je faisais tous les voyages, il était capable de descendre à sa consultation et d'oublier qu'il fallait aller chercher sa fille à la gare. Donc tout ça, ce sont des choses que je lui évitais. Effectivement, s'il allait à sa consultation, même heure que les retours, je lui demandais de ramener les enfants. Mais sinon, j'évitais tout ça le maximum, déjà parce que j'avais peur à la voiture avec ses comportements. Et puis... Et donc moi, ce soir-là, j'ai pleuré, je me suis dit, je ne peux plus vivre, c'est pas possible. Il m'a retiré les clés des deux voitures qu'on avait à l'époque, et moi j'ai changé de lit. Et ça a été, pour moi, c'est la coupure.
Et jamais, pour Alain, tu es allée à la police ?
Non. Cette fois, tu dois... Il y a quelque chose en toi qui doit dire c'est toi ou c'est lui. J'ai tiré cet homme-là vers le haut pendant 28 ans, qui reste dans son monde de junkie, qui fasse ce qu'il veut, même moi, c'est fini. Et donc j'ai changé de lit et je suis allée dans une pièce qui n'était pas une chambre au milieu de tous les enfants là-haut.
Et après, tu as demandé le divorce ?
Alors, après, je travaillais encore. Hein. Donc, je passe sous les détails parce que je travaillais encore, mais j'étais prête à m'arrêter. J'avais demandé ma retraite parce que je pouvais avoir ma retraite du public et plus de 3 enfants et il fallait que ce soit avant le 30 juin. Donc, j'ai demandé ma retraite. Et c'était une année où je disais, j'ai des petits trucs dans ma vie, moi. Et c'était une année où je disais, on ne tombe pas amoureux quand on est vieux parce qu'on est moche.
Pourtant, tu es tellement belle.
Merci.
Et tes fleurs dans les cheveux.
C'est important, les fleurs.
Ah ouais.
La lune, les fleurs. Et en fait, il s'est passé... Je ne peux pas tout dire parce que c'est un peu secret, mais voilà, il s'est passé un truc... C'était ma troisième, on va dire, grande histoire d'amour. Et ça m'a beaucoup aidée, ça. Ça m'a soutenue pour me dire... la vie ne s'arrête pas à cet homme, à ses enfants. Et là, je pensais vraiment partir, mais bon, Alain n'était pas bien. Et puis, j'ai réussi à partir, en fait, parce que à l'Alchi, j'avais rencontré des Canadiennes. Et donc, comme j'étais en retraite, mais que je n'avais pas assez de sous, je suis allée travailler dans les cliniques, tout ça. Et avec l'argent que j'avais, une partie de l'argent, parce que l'autre servait quand même au foyer, je me suis offert un voyage au Canada. C'est trop bien. Et donc je suis partie au Canada, c'était absolument génial. Et bon, là, on va passer dessus, mais mon quatrième enfant, c'est marrant parce que je ne l'ai pas évoqué, puisque je suis passée de Pauline en 90 jusqu'à Léo en 95. Mais en 92, un mois après la mort de maman, il y a eu Tristan. Et Tristan, il n'est pas resté. Tristan, il est reparti juste avant ses 20 ans, pendant que j'étais à Québec, l'enfoiré. Donc voilà. On passe dessus, donc ça a été un gros choc et là j'ai plus trop... déjà j'ai dû rentrer, j'ai été rapatriée, fis ça et puis ça me paraissait impossible quoi. Enfin, voilà, il y a une grosse tension qui a augmenté parce qu'il est mort avec les médicaments de son papa. Une nuit où il a déconné et puis ça lui a provoqué une apnée. Il meurt tout près d'ici. J'ai voulu retravailler à Lons mais ça n'allait pas parce que je travaillais dans un monde infirmier et médical et que j'aime pas comment on traite les gens, voilà. Dans le service, on m'a dit que c'était parce que j'avais un deuil récent, mais c'était pas ça. C'était que, au fait, il faut. C'est pas la vérité, c'est que. Les gens, c'est des gens, c'est pas des perfusions. Hein. Et donc, mes collègues, ils m'avaient offert pour ma retraite, ils m'avaient offert des places au théâtre. Je suis allée au théâtre, puis j'ai dit non, je cherche du boulot. Et donc, j'ai eu l'opportunité de travailler des petits jobs au théâtre pour augmenter un peu ma retraite. Puis ça m'a sauvée parce que déjà, c'était une matière dans laquelle je me reconnais. C'est la culture, moi, j'ai besoin de la culture. Et mon amoureux, c'est la culture. Il faut des livres et du jardin dans la vie. C'est pas moi qui l'ai dit, je sais pas c'est qui. Mais en tout cas, moi, ça marche avec lui. Ça match comme ça. Et au théâtre, j'ai arrêté il y a 2 ans maintenant. Mais j'ai eu des missions qui m'ont fait beaucoup de bien. J'ai travaillé dans les collèges. On avait un truc qui s'appelait Théâtre, c'est dans ta classe. Donc c'était c'est moi qui coordonnais tout ça. Et puis c'était théâtre, quoi. J'allais musique, chant, cirque. Donc, mes dernières années d'activité, c'était ça. Voilà. J'ai eu beaucoup de jobs.
C'est incroyable.
Ouais, parce que si on compte tous les troquets où j'ai travaillé à Paris, les cantines des F, le café théâtre Urenquin, le café de l'avenir à Vigneux. voilà. Et puis donc le théâtre, ça a été vraiment magique. Vraiment, ça m'a aidé. Ça m'aidait à pas penser à Tristan.
C'est ce que j'allais te demander. Comment on fait le deuil? Comment on passe l'épreuve de perdre un enfant?
On la passe pas. Le mot deuil, pour moi, c'est dire faire son deuil, c'est débile. Parce que tu te lèves le matin, ton gamin, il est pas là. Et enfin, pendant les premiers mois, comme je dormais encore en haut, puisque le père était encore dans la maison. Je laissais toujours, parce que bon, quand t'as des gamins qui grandissent, qui sortent, qui vont travailler, voilà, t'es toujours inquiet. Et je laissais toujours une petite lumière. Et après sa mort, il n'y avait plus personne à la maison, je crois, déjà. Léo était, je peux, Léo il avait 17 ans, donc il était déjà au lycée. Et donc, je laissais la petite lumière allumée parce que je me disais, peut-être il va l'éteindre cette nuit, mais il l'éteindra jamais. Et en fait, rapidement, ce que je me suis dit, et ça c'est que tu vis ou tu meurs. T'as mal, tu peux pas supporter ta douleur, tu meurs. Si tu meurs, on est tranquille, tu fais chier personne. Mais si tu vis, tu vas faire chier tout le monde. Donc moi, mon arme, entre guillemets, c'est pas que j'aime les armes, mais c'est que Tristan, il est vivant parce que je t'en parle. En plus, c'était un enfant hyper difficile, donc on avait des sketchs les deux. Bon, c'est un gamin qui... C'est doit être le seul qui m'a pris dans ses bras en me disant, avant que je parte, maman, je t'aime, qu'est-ce que t'es belle. Et à qui j'ai dit, Tristan, même si la grand-mère, elle meurt, je ne reviendrai pas. Putain, j'étais obligée de revenir pour lui, hein, mais... Mais donc parler de lui, je pense qu'on s'accommode, mais comment tu peux dire, enfin tous les mots qui disent, tu t'habitues à la mort, mais la mort de ton enfant, tu peux pas t'habituer à la mort à l'absence d'un enfant. Et surtout, je supporte pas les mots de disparu, parce qu'il est pas disparu, hein. Je sais pas où il est, certes, mais j'ai plein de beaux signes à l'heure de sa mort, j'ai eu le signe. Une autre fois, on racontera, mais c'était... Il était beau, il était grand. Il était fort, il jouait de la trompette. Comme un dieu. Et la dernière fois qu'il m'a joué de la trompette, c'était le 26 mars 2012. Je suis partie à Québec le 2 de Merlia, le 4 de Paris, et le 11, j'étais revenue parce qu'il est mort le jour... Pour moi, il est mort le jour de Pâques, mais bon, pas pour les services, mais il est mort le jour de Pâques. Voilà, et donc pourquoi on en est arrivé là? Donc voilà, après ça s'est quand même très délité entre Alain et moi. L'amour que je partageais était très bancal avec. Parce que bon, il est très jeune, enfin il est plus jeune que moi. Mais c'est quand même à partir de cet homme-là que j'ai 17 ans. Et je pense que le fait d'avoir 17 ans aussi m'a beaucoup aidée. Ben, c'est sûr qu'on ne conduit pas et qu'on n'a pas 5 gamins à 17 ans, mais. Je pense que poser l'idée que tu peux avoir et tous les signes du 17, en fait, quand tu lis un livre, quand tu vas voir un film, quand tu as 17 partout, moi, je suis très sur les chiffres.
je compte tout le temps, je compte les virages, les cuillères de farine, il faut que je compte des trucs idiots. Et donc le 17, c'est un super mot, c'est un super joli, c'est demain. On revient demain. Ce qui est important dans mon parcours, c'est que j'ai beaucoup aimé après. Tu sais, je t'ai dit, je pleurais, tout ça, nana. Mais j'ai beaucoup aimé être mère au foyer. Et moi, c'est mon féminisme à moi d'être mère au foyer. Parce que je pense que pouvoir, je l'ai constaté en étant infirmière scolaire, tu vois, pouvoir passer les petits déjeuners de tes enfants, prendre du temps le matin avec eux, mais c'est un temps d'une richesse. Que moi qui faisais des petits déjeuners avec les gamins au collège, ben, je voyais que les gamins, ils étaient pas toujours accompagnés le matin, donc ils déjeunaient pas parce que aussi ils avaient personne pour les réveiller, donc je réveillais mes enfants tôt, mais on avait moi être mère au foyer, c'est merveilleux. Et donc si je suis venue à te dire que c'était très bien d'être mère au foyer, c'est que je suis d'un tempérament où je pense que il faut aimer tout ce qu'on fait, même si c'est rébarbatif. Je me suis pas mise dans l'ombre en étant une mère au foyer, parce que déjà je pense que mes enfants c'est.
Merci. Merci Violette. Ouais, mais c'était trop beau.
Mais j'ai mille vies.
C'est trop beau. Tu m'as provoqué beaucoup d'émotions. Merci beaucoup.
Mais c'était bien, t'es souriante et tout.
Ouais, c'était trop bien. Mmh. Tu m'as beaucoup inspirée. Mmh. Merci Violette pour tes mots, ton partage et ce bout de vie. Je sais à quel point livrer son histoire est parfois un grand remue-ménage et comme souvent, on préférait ne pas tout remuer. Je te l'ai dit, mais je te le redis quand même. Merci d'avoir voulu revivre ça avec moi. Merci d'avoir mis des mots si justes sur les violences faites aux femmes, sur la sexualité et sur la perte d'un enfant. Merci d'avoir été toi, si entière. Il y a des voix que l'on n'oublie pas. Je n'oublierai pas la tienne.
Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout, ne vous privez pas. Trouvez-nous sur les réseaux à @mamiepodcast et par email à bonjour@mamiedanslesorties.co. À bientôt!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.